Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Il y a plus. Il y a plus. Si vous êtes à l'Église depuis quelques semaines, vous savez que c'est la thématique qu'on est un peu en train de développer. Et je ne crois pas que cette phrase est un slogan ou juste le nom d'un album ou juste le nom du livre de Pasteur Brian ou le nom de la conférence qui vient en juillet, mais je crois que c'est une déclaration prophétique. Déclaration prophétique pour nous en tant qu'Église. Et je voulais juste ce soir déballer un peu cette idée de vin nouveau, ce chant dont on parlait. Et vous m'avez peut-être déjà entendu expliquer le contexte du chant alors qu'on l'a introduit à l'Église, mais j'avais envie de déballer ce que ça veut dire pour nous de rechercher le plus qui est en Dieu. Ce vin nouveau qui veut déverser en nous. Vous pensez que ça peut nous aider ce soir? Cool. Ce que je vais faire, on va prier. Ensuite, on va rentrer dedans. Donc, merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui a une telle puissance, Seigneur, qui veut nous parler là où nous sommes, Seigneur. Et ce soir, on ouvre nos cœurs à ta parole, on ouvre nos cœurs à ta voix, à ta volonté, Seigneur. On veut entendre de toi, Seigneur. Je prie que ce soir, ce message ne soit pas juste... Soit pas juste des mots sur une page ou des mots qui viennent de ma bouche, Seigneur, mais que ça soit vraiment tout droit de ton cœur, Seigneur. Et donc, fais ta volonté ce soir, parle à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans Luc 5, au verset 37 à 38, ça dit « Personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres sont perdus. » Mais non, pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. Et ce verset, en fait, pour moi, il est tellement clair. Il est tellement clair. Si on désire voir le plus de ce que Dieu veut faire, si on veut voir le plus qu'il veut déverser en nous et au travers de nous, il faut être prêt à devenir de nouvelles outres. Dans ce chant, on chante ces paroles. On dit « Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi tout ce que tu veux que je sois. » Et vous savez, ce n'est pas glamour d'être un vase. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé ou quand on chante ça, faites-moi un vase. À quoi ça sert un vase? Un vase, ce n'est pas vu. Un vase, ça sert à contenir autre chose. Un vase, si on parle d'une carafe de vin dans le contexte de ce truc, il est juste fait pour contenir le vin. Au final, la carafe, ce n'est pas la chose la plus importante. Ou personne regarde un gros bouquet de fleurs magnifique et se dit « Ah, il est pas mal le vase ». En fait, les gens, on regarde les fleurs, on regarde le contenu. Mais ce matin, ce soir, j'ai envie d'élaborer. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être ce vase? Ce vase qui peut contenir ce que Dieu veut faire. Et je crois que si on peut juste capter ce message, si on peut capter ce que ce chant dit, mais ce que la parole de Dieu nous dit, je crois qu'on pourrait voir quelque chose d'incroyable se passer au travers de notre Église, au travers de nous individuellement. Donc, ce soir, j'ai 3 points. C'est très très simple, mais 3 points, 3 points, 3 clés par lesquelles on peut vivre. Et elles commencent toutes par la lettre P, comme ça, facile à mémoriser. Et c'est 3 P même en français et en anglais, donc c'est pas mal. Wow. Tout est réfléchi. Et donc le premier point, c'est la passion. Être de nouvelles outres, ça signifie vivre avec passion. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu ou... Peut-être que vous êtes chrétien depuis 20 ans, depuis 20 minutes, peu importe. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien du tout. Peut-être que vous avez mis les pieds ici ce soir, c'est un ami qui vous a invité. Et vous vous retrouvez dans cet endroit et vous dites, mais qu'est-ce que je fais ici? Et laissez-moi vous rassurer, vous êtes au bon endroit. Et je ne sais pas justement ce que vous pensez de Dieu ou peut-être votre expérience passée de Dieu, mais est-ce que je peux dire que je crois fermement que vivre pour Dieu signifie vivre avec passion? La grâce de Dieu, elle nous purifie, elle nous remplit de sa puissance et elle nous permet de vivre avec une passion spirituelle. Sa grâce, elle devrait éveiller notre imagination, elle devrait nous remplir d'une joie comme le monde ne l'a jamais connue. Il y a beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens qui connaissent Dieu mais qui se limitent en fait à une vie qui est souvent religieuse, qui est souvent monotone, qui est vraiment tout au contraire de l'image du Dieu que nous servons. Être chrétien, ce n'est pas juste une expérience d'une fois. Ce n'est pas une décision qu'on prend à un moment donné dans sa vie et après on continue à vivre la vie de la même manière. Mais c'est un processus continuel. C'est une transformation intérieure. Et c'est pas, tellement de gens voient ça comme le truc où l'assurance feu contre l'enfer. C'est genre, si je suis chrétien, bah c'est bon, je suis sauvé, j'avance. Ou ils voient ça comme une religion, un système de croyance, une manière de juste de vivre quand en réalité, C'est une toute nouvelle manière de penser, une toute nouvelle perspective, et c'est un espoir et une assurance, et c'est une joie qui déborde. Et donc quand on parle de vin nouveau, quand on chante ce chant, quand on lit ces versets, voilà, ça parle de l'Esprit de Dieu, et voilà de quoi il s'agit. Et j'aime, c'est l'histoire dans le livre des Actes, et vous connaissez peut-être, mais peut-être pas, c'est Jésus quand il est reparti, il parlait avec ses disciples avant de repartir, et il dit, il vaut mieux que je reparte, parce que quand je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui va vous guider, qui va vous conduire en toute vérité. Et donc, on se retrouve dans Actes 2 avec cette scène où Jésus il est reparti et il y a les disciples, il y a toutes ces personnes qui attendent dans la chambre haute. Et c'est le moment où l'Esprit de Dieu est déversé sur eux. Et au verset 1, voici ce qu'il est écrit. Ça dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au verset 4, aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans de différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. On va sauter au verset 12, ça dit, ils n'en revenaient pas, les gens qui étaient là n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose au ridicule et disaient, c'est le vin doux, ils ont trop bu. Je trouvais ça drôle quand je disais ça. Ils ont trop bu. Il y a des gens qui voyaient ces chrétiens et qui disaient, ils ont trop bu. Et je suis pas en train de dire que la Bible nous encourage à trop boire. Comprenez bien le message. Mais un peu comme le vin, l'Esprit de Dieu devrait un peu nous enivrer, devrait nous passionner, devrait genre, nous enflammer un petit peu. Et je sais pas si vous avez déjà rencontré une personne qui a un peu trop bu. Je sais que personne ici n'a jamais un peu trop bu. Ça s'applique vraiment juste à des gens qu'on connaît. Vous êtes d'accord? On est tous chrétiens. Ouais. Je rigole. C'est ok. Il n'y a pas de condamnation dans la maison de Dieu. Mais voilà, on a tous peut-être rencontré ou peut-être vous avez déjà été cette personne. Pas de souci. Mais vous savez, quand quelqu'un a juste un petit peu trop bu, c'est comme, des fois, c'est des gens qui sont un peu timides et tout à coup, c'est comme s'ils étaient remplis d'une assurance. C'est comme si tout à coup des choses qu'ils n'oseraient pas dire ou qu'ils n'oseraient pas, tout à coup sont prêts à juste y aller. Ou des fois il y a des choses qu'ils ne voudraient pas faire ou en temps normal, ils sont en mode non, je ne fais pas ça. Et tout à coup c'est en mode invincible. Et je me suis dit, imaginez si le monde nous voyait un peu comme ça. Si le monde voyait l'Église, voyait les chrétiens, pas comme des gens bizarres, mais comme des gens qui sont juste remplis de cette joie et de cette assurance. Rempli d'un esprit en fait qui est différent, comme le monde ne connaît pas. Et j'aime notre église, j'aime tellement notre église, j'aime la passion des jeunes. Quand la louange commence et que tout en avant, il y a les jeunes qui louent Dieu. Et vous savez, j'aime aussi dans notre église, il y a des personnes qui sont âgées, il y a des personnes qui sont plus âgées et qui sont pourtant tout aussi jeunes d'esprit. Et ce matin, je pensais à Alain Bron. La plupart d'entre vous connaissez Alain Bron, c'est le papa de mon meilleur ami. Oh. Mais Alain Bron, c'est cet homme, je ne sais pas quel âge il a. Mais le gars, il est sportif. Quel âge il a? 54. Mais cet homme, il va courir, en tout cas plus que moi. Et c'est la personne, en fait, qui tous les dimanches, si je suis ici, soit à porter la parole, soit à conduire la louange, peu importe, je peux être sûr qu'à la fin de la journée, je reçois un texto me disant que juste ça lui a parlé, que merci Seigneur qu'il m'utilise. Il a juste cette manière, c'est probablement l'homme le plus encourageant que je connais. Et vous savez, peu importe l'âge, dans notre église, c'est pas... Ouais. Tout le monde aime à l'ombre. Mais vous savez, c'est ça. Quand je pense à ça, je me dis, dans notre église, c'est pas notre âge qui va nous mettre à l'écart. On peut être jeune, on peut être vieux, c'est pas notre âge qui va nous mettre à l'écart. C'est pas non plus notre accent. On peut venir de la France, on peut venir du Québec, on peut venir de n'importe quel pays, peu importe l'accent qu'on a, c'est pas ça qui va nous mettre à l'écart. Mais c'est notre attitude. C'est notre attitude. Vous savez, quand Jésus il enseignait dans ce passage, il s'adressait à un peuple en fait. Il s'adressait aussi à des scribes, des pharisiens, ceux qui enseignaient la loi, des gens qui étaient accrochés à la manière dont les choses étaient. Ils voulaient voir les choses rester les mêmes. Pour eux, la loi, c'était le dernier mot. C'était ce que Dieu avait dit. Et l'idée, juste l'idée d'y rajouter quelque chose ou d'y enlever quelque chose, c'était pas juste incorrect ou mal, mais c'était un péché. C'était genre, on pouvait pas faire ça. Et cette attitude, vous savez, parfois, elle peut être tellement fréquente dans l'église. On peut tellement facilement vivre avec une attitude qui voit Dieu d'une certaine manière et qui en quelque sorte le limite, le met dans une boîte, dit, voilà, on n'a jamais fait ça. Ou Dieu, comme qu'il se limite au passé, aux manières dont on faisait les choses avant. Et qu'il limite Dieu des fois à une méthode ou à une liste de règles ou à des choses qui parfois ne sont pas qui il est. Parce que Jésus retire les limitations. Jésus, c'est écrit dans la Bible, il n'est pas venu pour limiter nos vies, mais il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Dans Jean 10, verset 10, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire, mais moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et que cette vie soit abondante. Et donc, il y a plus en lui. Je partageais avec notre équipe, justement, jeudi soir, sur l'idée qu'on ne peut pas vivre sur les vestiges du passé. J'ai pas le temps de développer toute la pensée, mais c'est dans Juges, au chapitre 2. Ça parle de Josué qui a pris le relais suite à Moïse, qui a conduit le peuple de Dieu dans la terre promise. Et il a vu plein de miracles, plein de choses se passer, mais dans le passage, il y a cette idée que Josué, il est mort. Et toute sa génération ensuite est mort après lui. Mais que toute la génération d'après, la troisième génération, n'ont même pas connu Dieu, ni même ce qu'il avait fait. Et je trouve ça incroyable. Dieu, tellement de miracles avaient été vus des générations avant. Et eux ne connaissaient même pas Dieu. Et parfois, c'est tellement à l'image de notre monde. On a des gens, souvent c'est... Mes grands-parents étaient chrétiens à fond. Mes parents, ils allaient un peu à l'église, mais pas trop. Donc, ils ont connu. Mais les enfants, notre âge, peut-être notre génération, ne connaît pas du tout les merveilles de Dieu. Et donc, si on veut vivre passionnément pour Dieu, je parle de passion... On ne peut pas vivre sur la foi de nos parents. On ne peut pas vivre sur la foi de nos amis ou des gens qui nous entourent. On doit cultiver notre propre foi. Et si je peux pousser le truc un peu plus loin, on ne peut pas vivre sur notre foi du passé. Ce que Dieu a fait dans ma vie il y a plusieurs années, c'est super, mais ça ne peut pas contenir ce que Dieu veut faire dans ma vie aujourd'hui. Et donc si ma foi, elle n'a pas grandi depuis ma première rencontre avec Dieu, si les outres de ma vie n'ont pas été élargies, en réalité, notre foi, elle devient un peu comme ces outres qui sèchent et qui deviennent fragiles et deviennent plus aptes à contenir la nouvelle chose que Dieu veut faire aujourd'hui. Dans Ésaïe, au chapitre 43, voici ce qu'il est écrit. Ça dit, « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé, car en effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. » Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Et donc ma question pour nous, Église, c'est où en est notre passion aujourd'hui? Où est notre passion pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui était à l'époque, quand on était plus jeune à un moment donné? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui? Si votre passion pour Dieu, elle s'est un peu estompée ces derniers temps, si votre foi, elle est devenue sèche, fragile, comme je disais un peu plus tôt, pourquoi pas faire quelque chose de nouveau? Pourquoi pas attiser cette passion qui est en nous en faisant quelque chose de nouveau? Peut-être qu'il s'agit juste de parler à quelqu'un qui a une foi complètement vivante. Peut-être quelqu'un qui va nous défier, qui va pas forcément nous dire la chose qu'on a envie d'entendre, mais qui est peut-être la chose qu'on doit entendre. Peut-être que c'est, je sais pas, juste de prendre le pas de servir à l'église, de vivre pour plus que soi-même, de pas juste venir à l'église pour recevoir, mais de venir pour servir. Pourquoi pas, je sais pas, des fois c'est même juste des choses aussi simples. Moi je sais qu'une chose c'est simple et quand ça fait tellement d'années qu'on lit une certaine version de la Bible, parfois juste de changer la traduction ça aide à faire ressortir les mots de la page. Donc pourquoi pas, il y a tellement de versions différentes, tellement de traductions qui ressortent les subtilités du texte original. Et donc, vous savez quand un organisme vivant arrête de grandir, c'est pas juste qu'il arrête de grandir, en réalité, il commence à mourir. Et donc, si on veut être prêt en tant qu'Église à recevoir le plus que Dieu veut faire, il faut arrêter de vouloir essayer de faire rentrer ça dans notre manière limitée de voir les choses. On doit continuellement juste choisir, faire le choix de grandir, de s'élargir, de faire de la place pour ce que Dieu veut faire. Dieu ne peut pas déverser un vin nouveau dans de vieilles outres. Et donc, la question pour nous, c'est est-ce qu'on est prêt à se laisser transformer? Est-ce qu'on est prêt à se laisser changer pour sa gloire? Et donc ça, c'est le premier point. Vivre avec passion. Mon deuxième point ce soir, c'est vivre avec persévérance. vivre et être de nouvelles outres signifie vivre avec persévérance. Dans Luc chapitre 5, versets 37 à 38, ça dit « Personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres ». C'est le verset qu'on a lu au début. Mais après, au verset 39, voici ce qui est rajouté. Ça dit « Personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. » On dit en effet « Le vieux est meilleur ». Et quand je préparais ce message, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Parce que Jésus, il est là en train de présenter la nouvelle alliance, en train de présenter quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui allait surpasser de loin tout ce que les gens avaient connu jusqu'à maintenant. Et pourtant, il termine son passage en disant « Personne ne veut du vin nouveau après en avoir vu du vieux, car le vieux est meilleur. » Et ensuite, il s'arrête. Il n'y a pas d'explication, ça dit juste « Jésus continua sur son chemin. » Et du coup, je me suis mis à dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ?» Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire si d'un côté il nous dit que je veux faire quelque chose de nouveau et d'un autre côté il nous dit bah l'ancienne manière elle est meilleure et quand je me suis mis à réfléchir, je me suis mis à lire différents commentaires, différentes choses, mais clairement ça nous parle de persévérance et je voulais l'aborder sous deux angles parce qu'il y a deux manières de le voir et premièrement le premier angle c'est que je crois que le vin nouveau c'est pas qu'il est forcément moins bon ou mauvais mais il a tout simplement pas le même goût que l'ancien. Il n'a rien à voir avec le vin ancien. C'est un peu comme quelque chose de peut-être très bon, mais qui est comme un goût qui s'acquiert. Parce que quand Jésus il enseignait là-dessus, il était en train de présenter quelque chose de nouveau, mais ce nouveau était l'accomplissement de la loi. C'était l'accomplissement de la loi. Et en faisant ça, Jésus n'était pas en train de rejeter la loi, la dénigrer ou dire qu'elle avait plus de valeur. Tout au contraire. Il n'était pas en train de la détruire, mais il était en train de l'accomplir. Et pour moi, c'est un peu comme une graine ou un gland qui est planté et qui devient comme un magnifique chêne. Et en quelque sorte, quand on pense à ça, effectivement, le gland, il disparaît en lui-même. Mais il accomplit le but ultime pour lequel il a été créé. Et donc, la loi était une ombre des choses à venir. Et Jésus était en train de l'accomplir. Hébreux 10, verset 1, la loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre des biens à venir. Car elle est tout à fait incapable de rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Comment le pourrait-elle avec ses sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre année après année, indéfiniment? Et donc pour moi, et pour nous, en tant que chrétiens vivant sous la nouvelle alliance, je pense que c'est important de se rappeler ça. C'est important de se rappeler qu'on ne peut pas prêcher depuis la loi. Elle était un garde. Elle a été donnée pour nous montrer que nous ne pouvons pas être justifiés par nos propres forces. Parce que c'est tellement commun d'avoir cette pensée de se dire si juste je vis de la bonne manière, si je suis les 10 commandements, si je suis ce que la Bible me dit, si j'aime mon prochain, si je fais le bien sur terre, si je fais ces choses, alors je serai accepté. Mais vous savez, la loi, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est la logique des choses, parce que si on brise une seule des lois, on est coupable de la loi entière. Vous savez, c'est comme la loi de notre pays. Si on casse une loi, ce n'est pas comme si on peut dire « Ah, mais j'ai respecté toutes les autres lois, j'ai fait du bien, j'ai donné aux pauvres. » Et ça ne tiendra pas en cours. En réalité, si on brise une loi, on est coupable de toutes. Et voilà le but de la loi. La loi, elle est là pour condamner. Elle est là, en fait, pour montrer qu'on est justement incapable de la tenir. Mais Jésus nous a montré sa grâce. Et parfois, on accepte Jésus, on accepte sa grâce et on veut pourtant la rattacher aux choses du passé. Et c'est un peu comme ces gens qui ont entendu le message de Jésus à l'époque, qui justement se disaient, ben, ce vin nouveau, il a un goût différent. Et l'ancien, ben, il nous semble meilleur. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. Eux pensaient que c'était trop beau pour être vrai, mais pourtant, c'était trop beau et c'était vrai. Mais c'était plus facile de revenir aux choses qu'on connaît. Plus facile de revenir à ce qui est habituel ou facile. Et donc, je me demande combien d'entre nous ont vécu une expérience avec Dieu. Combien d'entre nous ont entendu à un moment donné dans notre vie la direction de Dieu, ont entendu tellement clairement sa direction sur notre vie. Et peut-être que avec, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines, quelques années. Juste les choses, on est revenu à notre ancienne manière de vivre. Pour certains, c'était peut-être un premier appel à le suivre. Des gens qui, qui connaissaient pas du tout Dieu et qui du coup ont senti quelque chose et sont mis à marcher avec lui et pour quelconque raison se sont détournés. Ou peut-être c'est des, pour des chrétiens, des gens qui connaissent Dieu depuis longtemps, qui ont senti comme un appel à suivre Jésus là où il est, et comme quand il appelait Pierre à venir de la barque sur l'eau et qui disait viens-moi, on entend la voix de Dieu qui nous appelle à prendre un pas de foi. Et après on réalise que peut-être ça a marché, mais on commence à s'enfoncer et du coup c'est pas aussi simple que ça paraît, donc on revient dans la barque. On revient là où c'est confortable, là où c'est au chaud, là où c'est juste sécurité complète. Mais la vie chrétienne, c'est pas une vie sans danger. C'est pas une vie où on attend calmement la fin de notre vie pour arriver au ciel, là où tout sera beau, là où tout sera parfait. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie abondante. Aujourd'hui, il y a plus. Il y a plus. Et quand je préparais ce point, je pensais à cette histoire dans le monde de Narnia. Il y a des fans du monde de Narnia? Yes. Je vais vous amener, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette scène où il y a cette petite fille qui s'appelle Lucy. Et désolé, c'est Suzanne en fait. C'est Suzanne qui parle avec monsieur et madame Castor. Et en fait, elle est en train de parler d'Aslan, ce grand lion qui dans l'histoire en fait est comme une représentation de qui Jésus est. Et voici ce qu'elle dit. Ça dit, oh, s'exclama Suzanne. Je pensais qu'il était un homme. N'est-il pas dangereux? Étant un lion, n'est-il pas dangereux? Cela me ferait plutôt peur de rencontrer un lion. Tu auras certainement peur, ma mignonne, c'est sûr, dit Madame Castor. S'il existe des gens qui peuvent se présenter devant Aslan sans que leurs genoux tremblent, ils sont soit plus courageux que les autres, soit tout simplement stupides. Mais alors, est-il dangereux? Dangereux, reprit Monsieur Castor. Vous n'avez pas donc entendu ce qu'a dit Madame Castor? Dangereux, évidemment qu'il est dangereux. Mais il est bon et il est le roi. Et j'aime ça. Et je sais que c'est une histoire fictive, je sais que c'est un monde un peu allégorique, mais si Dieu nous mène quelque part de nouveau, parfois ça va être dangereux. Et encore, on a le privilège de vivre dans un pays où pratiquer notre foi et on est libre de le faire. On a des pays où littéralement c'est impossible de vivre sa foi de manière publique et ouverte pour peur d'être exécuté. Et donc, que ça soit là ou que ça soit ici, à différents degrés, suivre Dieu n'est pas toujours une partie de plaisir, c'est pas toujours confortable. Mais si Dieu nous amène quelque part de nouveau, il faut apprendre à persévérer. Parce que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre va la mener à sa complétion. Il termine toujours ce qu'il commence. Et donc apprenons à ne pas revenir en arrière et à ne pas délaisser le nouveau qu'il est en train de faire en nous. Donc ça, c'était un peu le premier angle. Pourquoi le vin ancien, il sent meilleur? C'est que parfois, c'est juste plus confortable. Plus confortable. Mais la deuxième conclusion que j'en ai un peu tirée, elle est un peu reliée à ce premier point, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais parfois c'est que le vin nouveau peut aussi devenir un vin de qualité avec le temps. Certains vins sont faits pour être consommés immédiatement. On parle du Beaujolais nouveau, vive la France, qui est bon tout de suite. Et parfois, le fruit de ce que Dieu fait dans notre vie, il est instantané. Parfois, on a ces victoires, on a toutes ces choses qu'on désire voir. On voit Dieu répondre à nos prières de manière instantanée. Mais parfois, c'est pas du tout ça. Parfois, c'est un processus. Parce que parfois, le vin nouveau que Dieu veut déverser en nous n'est pas fait pour être déversé tout de suite. Peut-être qu'il est en train de le laisser en nous pour qu'il devienne un grand cru. Certains vins peuvent passer des mois, voire des années à vieillir dans des barils. Mais quand il sort, c'est quelque chose d'incroyable. Et peut-être que c'est pareil avec nous. Il nous appelle dans tous les cas à persévérer, à ne pas abandonner au moindre défi et à la moindre difficulté. Et si on est sincère, c'est pas toujours facile. On le chante dans ce chant justement, et les premières phrases du chant, c'est « Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau ». Et ce processus, il n'est pas toujours agréable. Littéralement, les raisins sont écrasés, piétinés pour créer cette substance, ce vin. Le processus de fermentation où les outres sont en train de s'étirer, c'est pas confortable, ça fait mal. Mais si on comprend ça, si on comprend que l'Esprit de Dieu habite en nous et qu'il est en train de produire quelque chose, si on reste, si on persévère, je suis convaincu qu'on pourra voir quelque chose incroyables s'accomplir comme on n'a jamais vu auparavant. Amen. Amen. Et mon dernier point, juste alors que j'invite nos musiciens à remonter. On a parlé de passion, on a parlé de persévérance, toujours dans le contexte du vin nouveau, des nouvelles outres que Dieu nous appelle à être. Mais mon dernier point, c'est être de nouvelles outres signifie vivre avec puissance. Vivre avec puissance. Et c'est hyper basique comme pensée, hyper basique comme observation. Je suis désolé si vous êtes venu pour quelque chose de plus sophistiqué que ça. Mais les outres existent afin d'être remplis. Les outres existent afin d'être remplis. Il n'y a rien de plus décevant qu'une bouteille de vin vide à table. J'ai des amis. Il n'y a rien de plus décevant qu'une bouteille de vin vide à table. C'est comme ce passage où Jésus, il était à un mariage. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il est à un mariage et je ne sais pas, c'est comme s'il était 20h. Le mariage est pas, il vient juste d'être entamé et il y a déjà plus de vin. Il faut comprendre qu'à l'époque, ce n'est pas juste... Ah, c'est dommage, il n'y a plus de vin. Non. C'est une honte pour la famille qui a organisé le mariage, de ne pas avoir prévu en fonction. Et donc, il y a la mère de Jésus qui vient vers lui, qui dit, tu dois faire quelque chose, il n'y a plus de vin. Et Jésus qui dit, mais mon temps, il n'est pas encore venu, mais pourtant, il le fait quand même. Il fait un miracle et il transforme l'eau en vin. Et donc, les outres existent afin d'être remplies. Et quand elles sont vides, elles n'accomplissent pas le but pour lequel elles ont été créées. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, en tant que chrétien, nous sommes destinés à des vases qui sont remplis de la présence de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit n'habite pas en nous, on n'est pas en train de vivre le plein potentiel de ce qu'il nous a appelés à être. Son Saint-Esprit nous remplit de puissance. Dans Actes 1, au verset 8, ça dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Parfois, on peut venir à l'église et penser que la vie de chrétien, ça se résume à ça. Croire en Dieu, suivre quelques règles, mais Dieu, il nous appelle à tellement plus. Il nous appelle à vivre une vie de puissance. Parfois, on a l'extérieur. On a l'extérieur, on a le langage, on a les chants, on a même cette manière de parler et on a tout ce qui est extérieur, mais le vase, il est comme vide. On trimballe comme un vestige de religion, de religiosité, mais on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Et je ne sais pas comment vous voyez le Saint-Esprit. Je sais qu'il y en a qui entendent ça pour la première fois, il y en a d'autres qui sont chrétiens depuis longtemps et vous en avez vu de toutes les couleurs, mais est-ce que je peux dire ce soir que le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de bizarre? Est-ce que je peux dire que c'est pas quelque chose qui nous rend bizarre, mais c'est quelque chose qui nous rend pertinent? Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu qui habite en nous. C'est une voix qui nous guide, c'est la puissance qui nous donne un peu cet avantage dans toutes les situations. C'est un peu comme une capacité de vivre par sa force et par sa sagesse. C'est ses pensées qui deviennent les nôtres. Et vous savez, c'est pas juste ça, mais le Saint-Esprit, il est pas juste pour nous. On peut tellement souvent penser, ouais, remplis-moi, réponds à mes prières, tout ça, mais en réalité, le Saint-Esprit, c'est un peu comme cette bouteille de vin. Donc ça, c'est une bouteille d'eau. Priez que Jésus la transforme. C'est comme cette bouteille en fait. Donc c'est bien beau un coup qu'elle est remplie, mais le but de la bouteille, c'est pas qu'elle reste pleine. Le but de la bouteille, c'est qu'elle soit déversée. Le but de la bouteille, c'est qu'elle soit remplie, déversée et re-remplie. Et donc nos cœurs, c'est la même chose. Ils sont pas faits pour conserver ce que le Saint-Esprit veut faire, mais c'est fait pour déverser sur le monde qui est autour de nous. Dans Romains 5, ça nous dit notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui nous confond. Car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et donc la question pour nous, Église, c'est ça. Comment vivre par la puissance de l'Esprit aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie peut-être de renoncer au confort? Est-ce que ça signifie peut-être de sortir justement de la barque à nouveau? Peut-être d'oser obéir à la voix de Dieu une fois de plus. Aller là où Jésus est. Peut-être que pour d'autres, c'est renoncer au péché. Peut-être c'est renoncer au péché. Vous savez, on peut en faire tellement une fixation parfois. On peut tellement juste vivre et lutter avec des choses et se dire, et tellement être focalisé là-dessus qu'en réalité, La parole est tellement claire que si les choses sont menées à la lumière, peut-être des fois juste de partager avec quelqu'un de très proche quelque chose qu'on est en train de vivre, c'est incroyable comment ça peut désarmer la puissance du péché. C'est incroyable comment ça peut tout à coup relever nos yeux et arrêter d'être focalisé sur ce truc, ce problème qui nous limite, qui semble nous retenir en arrière, et tout à coup on relève les yeux vers ce que Dieu veut faire dans nos vies. Car il y a plus, et il ne nous appelle pas à vivre enchaînés, mais à vivre libres. Parfois il s'agit de renoncer à notre propre volonté, renoncer à nos propres désirs, et c'est comme Jésus lui-même. Lui, il est allé à la croix, et le jour avant, il disait justement, il priait son Père et il disait: Seigneur, si tu peux enlever cette coupe de moi, ça serait juste incroyable, mais pas ma volonté, fais la tienne. Vivre par la puissance de l'Esprit, pour moi, c'est vivre plus grand que nous-mêmes. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé autour de vous, mais on vit dans une ville qui a tellement de besoins. On vit dans une ville, dans un monde qui a tellement besoin de Jésus. Et donc vivre par l'Esprit, c'est être une lumière pour notre monde. C'est savoir que le Saint-Esprit va nous donner les mots justes au bon moment. Parfois, on peut tellement être limité, on se dit, je ne sais pas si j'aurai les mots à dire, mais vous savez, ce n'est même pas notre travail en tant que chrétien d'essayer de convaincre les gens de croire en Dieu. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui parle par sa puissance au cœur de l'humanité. Et nous, on a juste besoin d'être comme ces vases, disposés, prêts à être utilisés, prêts à être sur le chemin et juste être utilisés pour la gloire de Dieu. Je partageais ici avec notre équipe et j'ai dit, parfois c'est juste vivre par la puissance de l'Esprit, c'est oser certaines prières. Peut-être oser dire, Seigneur, interromps ma vie. Interromps ma vie. Un peu comme Jésus qui avait toutes ces foules qu'il suivait et qui pouvaient être interrompues. C'est comme si, voilà, il avait tellement de choses à faire, mais c'était les enfants qui venaient à lui, c'était la femme qui voulait être guérie, elle avait un problème de sang, il y avait l'homme aveugle qui était à la porte de la ville, et Jésus, il s'est arrêté. Il y avait Zachée qui était dans l'arbre, il a dit, je vais manger chez toi. Et parfois, si on ose juste prier cette prière, Seigneur, interromps ma vie, c'est incroyable comment il va ouvrir des portes, incroyable comment il va mettre des gens sur notre chemin, vers qui il est en train d'essayer de révéler son amour et sa grâce. Et il va nous utiliser sur le chemin. Et donc ce soir, combien d'entre nous voulons vivre ça? Combien d'entre nous voulons vivre ça ce soir? Amen. Amen. Est-ce que je peux nous inviter à nous lever? J'ai tellement cette prière. Tellement cette prière que ceci devienne notre réalité. Que ceci devienne notre réalité, que ce chant qu'on chante soit pas juste un chant qu'on va chanter cette année, que l'année prochaine on passera à d'autres chants, mais que la réalité de ce message imprègne nos cœurs, qu'on se mette à vivre et être ces nouvelles outres prêtes à déverser. Combien d'entre nous voulons vivre ça? On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour envers chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre ce soir, Seigneur. Et Seigneur, on vient devant toi avec cette prière humble et sincère, Seigneur, de vouloir être utilisé pour toi, Seigneur. Seigneur, on prie que tu nous donnes une passion, Seigneur. Une passion pour un monde qui est perdu, Seigneur. Une passion pour toi. Une passion, Seigneur, pour les choses de Dieu. Seigneur, on prie que tu attises en nous, Seigneur, cette passion de vouloir vivre pour plus grand que nous-mêmes, Seigneur. Je prie aussi pour notre persévérance, Seigneur. En tant que ton Église, en tant que ton peuple, Seigneur, qu'on puisse apprendre à ne jamais vivre découragé, Seigneur, mais à persévérer dans l'appel que tu as placé sur nos vies, Seigneur. Et on prie pour ta puissance ce soir, la puissance de ton esprit, Seigneur, qui nous donnera les mots justes au bon moment, Seigneur, qui nous permettra d'être un impact, d'avoir une influence dans notre monde, Seigneur, et on désire vivre pour toi, Seigneur. Donc remplis-nous de ton esprit, Seigneur, déverse ton esprit dans ce lieu, Seigneur, fais ce que toi seul peux faire dans chacune de nos vies, Seigneur, et on veut vivre pour toi, Seigneur. Donc comment on va chanter ce chant, on va le déclarer de tout ce qui est en nous.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.hillsong.fr.